des commerçants, des élus locaux, des médecins et surtout des chroniqueurs de télévision. Le moins qu'on puisse dire est que le nouveau confinement est bien moins accepté que le confinement du printemps dernier. Alors, le confinement est-il un outil efficace pour combattre l'épidémie au stade actuel en France ? Débat de cette émission avec deux invités cette semaine, Christian Lehmann, médecin généraliste dans les Yvelines, chroniqueur quotidien à Libération, où vous êtes un chaud partisan des outils de distanciation sociale. Nous vous avions invité au printemps dernier et nos abonnés se souviennent que vous leur aviez d'ailleurs à ce moment-là dispensé un conseil prémonitoire qui était « couser des masques ». Et c'était à l'époque où on ne parlait pas encore véritablement de masques. En tout cas, il y avait un doute sur l'utilité des masques. Avec vous cette semaine, Laurent Mucchielli, vous êtes sociologue. Vous êtes un des initiateurs d'un texte titré « Le confinement, un remède pire que le mal », texte publié sur le site du mensuel de gauche « Regard ». Mais alors, ce qui nous a intrigué, Laurent Mucchielli, c'est qu'on vous connaissait jusqu'alors plutôt comme spécialiste des questions de délinquance et des politiques de sécurité, plutôt que de politique sanitaire. Avec nous sur le plateau, Paul Aveline, premier plateau Arrêt sur image, Paul. Paul qui nous donnera des indications chiffrées sur l'épidémie aujourd'hui et sur le mouvement de contestation du confinement. Mais alors, Laurent Mucchielli, voilà, je disais que vous étiez jusqu'alors connu pour vos travaux sur la délinquance et les politiques de sécurité. Donc la première question toute naturelle, c'est qu'est-ce qui vous a déterminé à vous pencher sur les questions de politique sanitaire et notamment sur l'épidémie de Covid ?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, ce qui m'a déterminé à me pencher là-dessus, c'est juste de faire mon métier d'intellectuel, comme je l'ai déjà fait en fait à de nombreuses reprises. Hein. En 2005, lorsqu'il y a eu les grandes émeutes qui ont traversé la France, bah, j'ai arrêté mon travail de chercheur au CNRS de l'époque, sur lequel je ne sais plus sur quoi je travaillais à l'époque, peu importe. Je l'ai suspendu pendant quelques temps, j'ai formé une équipe et on s'est mis à travailler pour comprendre cet événement assez extraordinaire qui se passait. De la même manière, fin 2018, début 2019, lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, je m'y suis intéressé, je me suis mis à travailler là-dessus.
Dans les deux cas, si je peux me permettre, vous étiez encore dans un territoire, on va dire, voisin du vôtre, par exemple, où il était question de maintien de l'ordre. Alors là, vous êtes en pays totalement étranger, non ?
Oui, au départ, j'étais en pays étranger, ce qui m'a demandé énormément de travail, évidemment, pour me mettre un minimum à niveau. Hein. Donc, j'ai lu pour la première fois de ma vie des revues médicales que je n'avais pas l'habitude de lire, bien sûr. Mais c'est aussi un travail que je n'ai pas fait tout seul. Hein. Il faut savoir ça. Hein. Très rapidement, dès la milieu du mois de mai à peu près, il y avait une équipe d'une dizaine de personnes qui s'était formée autour de moi, dont la moitié de médecins. Aujourd'hui, c'est même une quinzaine de personnes dont la majorité sont également des médecins. Donc c'est devenu tout un travail d'équipe, en fait.
D'accord. Alors, pour que cette émission soit parfaitement, le plus clair possible, le plus pédagogique possible, je vous propose qu'on procède en deux temps distincts. On va d'abord essayer de poser un diagnostic. Où en est-on aujourd'hui de l'épidémie en France, en essayant de donner des éléments chiffrés sur lesquels on va essayer de s'accorder. Et on passera ensuite à si j'ose dire, à l'ordonnance, le confinement. Est-ce que le confinement est un outil adapté, son coût, ses bénéfices? Voilà, on essaiera de discuter de tout ça. Mais on va peut-être commencer par essayer de dresser un état des lieux le plus précis possible de la maladie aujourd'hui, 6 novembre 2020. Paul, on en est où ?
Alors Daniel, pour bien comprendre de quoi on parle, en effet, on va faire un point sur les chiffres. Et je vais préciser tout de suite que tous ces chiffres sont fournis par l'agence de santé publique rattachée au ministère de la Santé, Santé publique France. Toutes les données qui vont suivre sont issues du rapport du 4 novembre, qui se focalise sur les 24 dernières heures, donc depuis le 3 novembre. Sur le nombre de cas d'abord, Santé publique France recense 40 558 nouveaux cas de Covid en une journée. L'agence précise d'ailleurs que ce chiffre est sûrement un peu en dessous de la réalité, parce qu'ils ont des difficultés à faire tout remonter depuis les régions. Il faut noter qu'en avril, au plus fort de l'épidémie, on comptait jusqu'à 42 000 nouveaux cas quotidiens. sur la situation de l'hôpital maintenant.
Ça c'est les contaminations, voilà. Donc, ça, là, c'est alors, attends, c'est parce que là, on a le schéma des hospitalisations.
Ça, c'est les nouvelles contaminations. Ouais,
d'accord. Maintenant,
mais justement, les hospitalisations, on y arrive tout de suite. On va parler de l'hôpital avec deux données, donc les nouvelles hospitalisations et les entrées en service de réanimation. Pour les entrées à l'hôpital, d'abord, l'agence de santé en recense un peu plus de 18 000 sur les 7 derniers jours. Et en tout, on comptabilise 26 000 personnes hospitalisées en France infectées par le virus. Sur ces 18 000 nouveaux malades hospitalisés, 2 884 sont admis en service de réanimation. Au plus haut de l'épidémie, on en comptait environ 20 000 hospitalisations par semaine. Il faut noter qu'aujourd'hui, on a 4 080 personnes hospitalisées en service de réa en France. Ensuite, sur les décès...
Alors là, pardon, là, on a changé de courbe, et donc on voit donc
voilà,
là...
Donc ça, c'est les personnes en service de réanimation en France. On en compte aujourd'hui 4 080, avec une hausse de 34% sur la dernière semaine.
D'accord. Et pour qu'on soit bien clair, le pic qu'on voit à gauche, c'est le pic, c'est le plus fort, c'est la situation
au mois d'avril
de la première... du premier confinement, pardon, voilà. Et à droite, on est à la date d'aujourd'hui.
Exactement. Et ensuite, donc, pour les décès, Santé publique France comptabilise 394 décès supplémentaires à l'hôpital seulement en 24 heures. Les données des EHPAD ou d'autres institutions médicalisées ne remontent que le vendredi midi. Au pic de l'épidémie, le 7 avril, c'était un triste record puisqu'on comptait 607 morts. Et ensuite, un dernier indicateur, c'est le fameux R0. C'est cet indicateur qui permet de savoir combien de personnes contaminent une personne malade. Pour être très clair, si le R est à 0, tout simplement, l'épidémie ne circule pas. Si le R est égal à 1, ça veut dire que chaque personne contaminée contamine à son tour en moyenne une personne. Aujourd'hui, le rapport R, il est à 1,4, selon le dernier rapport de l'Agence de santé du 29 octobre. Au plus fort de l'épidémie en mars, juste avant le confinement, il atteignait les 3,4, ce qui veut dire qu'à l'époque, une personne contaminait en moyenne 3,4 autres personnes.
Très bien. Alors ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Pour qu'on soit parfaitement complet, je voudrais qu'on voit comment Emmanuel Macron justifiait le retour au confinement dans son allocution télévisée qu'il l'annonçait.
Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises.
Alors, Laurent Mukeli, vous reprenez et vous critiquez un certain nombre de ces chiffres dans votre texte, là, publié sur le site de Regard, dont je parlais au début de l'émission, notamment le chiffre de 527 que donnait Macron dans son allocution en disant que ce chiffre n'est pas exact puisqu'il incluait les chiffres des morts des EHPAD. Bon, ça, je dirais que ce sont des détails. Sur l'essentiel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une deuxième vague?
Alors, non, on pense que c'est une hypothèse, hein, bien sûr, et toutes les hypothèses sont légitimes. Mais nous, c'est pas l'hypothèse qu'on fait, ou en tout cas, on appelle à la prudence par rapport à ça, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que à partir du moment où on teste tout le monde d'une part, et à partir du moment où d'autres pathologies, on voit déjà qu'elles ont régressé dans le même temps, que ce soit les grippes à l'hiver dernier ou d'autres maintenant, on pense, comme plusieurs études l'ont montré, notamment en Angleterre, qu'on a tendance aujourd'hui à étiqueter Covid des gens qui, en fait, fondamentalement, viennent mourir à l'hôpital pour autre chose.
Mais qui sont quand même atteints du Covid.
Alors, qui peuvent avoir le Covid ou qui peuvent l'avoir, oui, parce que, comme vous le savez, il y a aussi un problème de sensibilité des tests, hein, qui est important.
Mais puis, alors, pour bien vous comprendre, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut aujourd'hui étiqueter Covid des gens qui ne sont pas atteints du Covid, c'est bien ça?
Des gens pour qui, soit ils peuvent être atteints du Covid, mais ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle ils sont là et ils sont en fin de vie. Ils sont, par exemple, en cancer généralisé en fin de vie. Donc, en plus de ça, ils ont attrapé le Covid. Soit ils ont en fait des traces de Covid, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les gens qui font les tests, hein. Soit ils ont des traces de Covid qu'ils ont eues, mais qu'ils n'ont plus ou qui sont infimes. Bon, mais aujourd'hui, il y a une tendance à étiqueter un peu tout Covid, si vous voulez.
Alors, sur ce point-là, avant d'en venir aux autres arguments, on va essayer vraiment de procéder données par données, argument par argument. Christian Lehmann, on étiquette Covid aujourd'hui des gens qui soit ont sont atteints d'autres maladies, soit même qui ne seraient pas atteints du Covid dans la statistique.
C'est difficile de commencer en me demandant de commenter quelque chose qui est du négationnisme.
Non, mais attendez, on ne va pas tout de suite sortir les grands mots. Je vous pose une question précise.
Attendez. Laurent Mukiely fait partie de ces gens qui, depuis le mois de mai, ont dit « il y a un consensus pour dire que ce que Raoult a très vite montré, que l'épidémie suit une courbe en cloche et qu'elle est finie, il n'y a pas d'éléments scientifiques pour un rebond. En Europe, le phénomène est quasiment terminé.
Bah, » Attendez, Christian Lehmann, au mois de mai, Christian Lehmann, s'il vous plaît, au mois de mai, tout le monde disait des bêtises au mois de mai, si on reprenait les bêtises des uns et des autres, on n'en sortirait pas.
Excuse-moi, non, parce
non,
que
non, je voudrais qu'on soit vraiment sur les arguments de Mukiely, est-ce qu'aujourd'hui, dans la statistique, on étiquette Covid des gens qui sont atteints d'autres pathologies ?
Non, on en est arrivé à un point où un député comme Dor, qui est un député de droite, essaye de taper sur le gouvernement en expliquant qu'il a eu en main des certificats de décès sur lesquels il y a faussement marqué Covid pour des gens qui ne sont pas morts du Covid. C'est une fake news totale parce que ces documents sont fermés et sont ouverts ensuite. Ils ne sont même pas ouverts dans les mairies. Mais le souci, c'est que le gouvernement a fait tellement d'erreurs dans sa gestion qu'il a donné du grain à moudre aux complotistes. Et je pense que quand vous êtes parti, vous êtes avec un biais de confirmation, quand vous avez commencé par dire « il y a des mois, il n'y aura pas de seconde vague », quand les médias ont complaisamment invité les rassuristes pour dire qu'il n'y aurait pas de seconde vague, quand vous vous retrouvez avec les courbes qu'on a aujourd'hui et que vous voyez ceci, ça ne se voit sans doute pas, mais voilà.
On le voit très bien.
Quand on voit ça,
ce que je disais,
Lacan disait, le problème avec le réel, c'est quand on se cogne. Ben là, on se cogne, c'est-à-dire que la population va se cogner cette seconde vague, les hôpitaux vont se cogner cette seconde vague, moi, dans mon cabinet, je me cogne cette seconde vague. Et ce qui est compliqué, c'est heureusement que vous m'appelez aujourd'hui et pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, je ne passerai pas une heure dans une émission, on n'y arrive plus, on est complètement submergé. Donc il y a un truc, d'abord, on nous a dit, il n'y aura pas de seconde vague, ensuite on nous a dit, mais ça touche que des jeunes, donc ça peut passer entre eux. Puis on nous dit maintenant, ça touche des vieux, bah, de toute façon, ils devaient mourir. J'appelle ça du négationnisme.
Alors, Laurent Mukiely, vous nous dites qu'il y a des gens qui sont abusivement étiquetés Covid. On peut chiffrer le nombre de malades qui sont, selon vous, abusivement étiquetés Covid ?
Monsieur Steinerman, je suis chercheur au CNRS. Je fais un boulot sérieux depuis 8 mois. La prochaine fois que monsieur Lehmann m'injurie, je raccrocherai ce téléphone. C'est juste pas sérieux.
Bon, alors, franchement, les gens qui nous écoutent n'en ont rien à faire de vous écouter, vous envoyer des noms d'oiseaux. Moi, je vous pose des questions sérieuses. Moi, je vous pose à tous les deux des questions précises et j'aimerais bien, et nos abonnés aimeraient bien des questions précises. Est-ce qu'on peut chiffrer, Laurent Mukiely, le nombre de malades qui sont, selon vous, abusivement étiquetés Covid ?
J'ai pas entendu la question, monsieur. Et je répète, à la prochaine injure, je raccroche. Ce n'est pas sérieux et j'ai mieux
est-ce
à
que...
faire.
Alors, si vous voulez écouter ma question, comme ça vous aurez peut-être une chance de l'entendre. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de patients qui sont, selon vous, abusivement étiquetés Covid, puisque c'est votre premier argument pour expliquer que le nombre d'hospitalisés n'est pas un nombre valable, selon vous ?
L'étude anglaise qui est sortie à la fin du mois de septembre chiffre ça à environ 30%. Point. Je lis les études internationales et je vous dis ce que j'ai lu. Le reste ne m'intéresse pas.
D'accord. Donc, selon vous, 30% d'abusivement est...
C'est pas selon moi, je vous dis. J'ai lu une étude internationale publiée dans une revue,
oui.
Pas un préprint, on ne sait où, une revue qui vous dit, en Angleterre, on estime que 30% des gens ne sont pas là, en fait, pour le Covid. Ils sont là parce qu'ils allaient mourir, de toute façon, d'autres choses, et on les a abusivement comptés comme des malades Covid.
Ok, vous nous enverrez le lien de cette étude anglaise et on mettra le lien dans l'article. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous amènent à penser que nous ne sommes pas dans une deuxième vague? Parce que je dois vous dire que quand on voit les graphiques qu'a passé Paul ou quand on voit le graphique qui a été montré par Christian Lehmann, nous, on est peut-être très bêtes, mais on se dit, mais oui, mais on y est dans la deuxième vague. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous amènent à en douter?
Alors oui, j'en avais annoncé deux, donc il y en a un deuxième. Bien. Le deuxième, c'est que, comme savent tous les gens qui connaissent un minimum le sujet, les maladies ont une saisonnalité. Et la mortalité a une saisonnalité. Chaque année, en fait, la courbe que vous projetez, c'est une courbe qui a la même allure que la saisonnalité des maladies et des décès. C'est-à-dire que chaque année, vous avez un pic en hiver, suivi d'une décroissance. En été, on est au plus bas, à une exception près, qui sont les pics climatiques, les pics de canicule qui arrivent. Il y en a d'ailleurs eu cette année trois petits, hein, dont un qui a fait pas mal de dégâts, notamment dans la région des Hauts-de-France. Et ensuite, il y a systématiquement et chaque année une remontée à l'automne et qui aboutit à l'hiver.
Voilà,
et
ce que vous nous dites là.
Au mois d'octobre.
Ce que vous nous dites là, c'est que finalement, il y a une surmortalité saisonnière, mais qui est normale. D'ailleurs, vous nous avez envoyé, vous aussi, un graphique. Je ne sais pas si on peut le montrer, le graphique de la surmortalité. Voilà. Alors, donc, on est sur la surmortalité à partir de 1994 à 2020, hein, à gauche 94, à droite 2020. Et ce que montre ce graphique que vous nous avez envoyé, c'est effectivement des pics de surmortalité. On voit cependant que les pics de surmortalité de 2018 et de 2020 sont particulièrement élevés. Christian Lehmann, sur l'argument de la surmortalité saisonnière.
La surmortalité saisonnière. Les gens sont plus malades quand il fait froid. Ça me fait penser à Martin Blachier qui expliquait qu'il avait modélisé l'épidémie, mais il y avait un truc auquel il n'avait pas pensé, c'est la baisse des températures à l'automne. Oui, les gens meurent plus quand il fait froid, mais ça fait 37 ans que je suis médecin. Je n'ai jamais vu déprogrammer des soins... changer des services de soins intensifs en réanimation. J'ai jamais vu de mémoire, sauf peut-être en 2003 pendant la canicule, des patinoires transformées en morgue. J'ai jamais vu mon hôpital louer des camions frigorifiques. À un moment, ça va être difficile de dire que cette année est comme les autres. D'autant que la surmortalité, en général, elle commence un petit peu plus tard dans l'année et on sait que les mois difficiles pour les personnes âgées, les mois où la faucheuse passe, on va dire que c'est novembre, décembre, janvier, février. Là, ça a commencé plus tôt, ça a commencé à monter plus tôt. Et on est au bas de ce... On n'est pas au bas, on est en train de monter cette courbe de façon claire. Alors, moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas honte d'être un peu ridicule. En juin, et j'avais dit, s'il faut qu'il y ait des types qui, un peu comme les vieux soldats japonais sur leur île, sont là en se disant « la guerre n'est pas finie tant que l'empereur ne l'a pas dit, ben, tant pis, on passera pour des cons ». On a essayé de faire en sorte de limiter les dégâts avec les masques en lieu clos, en demandant un protocole sanitaire correct. En fait, ce qui est étrange, on va en parler tout à l'heure, c'est que je me retrouve d'une certaine manière... conseiller un confinement que moi et mes collègues avons tout fait pour éviter, pendant que des gens disaient, je le redis, l'épidémie suit une courbe en cloche, elle est finie, il n'y a pas d'élément scientifique pour un rebond. En Europe, le phénomène est quasiment terminé. C'était M. Mukieli le 25 mai. J'entends parfaitement qu'un chercheur peut être interpellé par une chose aussi importante qui se passe dans la nation et vouloir travailler dessus. Et il se trouve que j'ai suivi certains des travaux de M. Mukieli. Donc, quand on s'intéresse
sur la délinquance et les sur la délinquance et les politiques de sécurité dans le passé,
oui,
vous voulez
exactement,
dire.
Exactement. C'est-à-dire que quand on se si vous voulez, quand on combat...
On n'a pas d'argument, on attaque les personnes.
Quand on combat le fait que, par exemple, le gouvernement nie les violences policières, etc., on ne peut pas, de la même manière, nier ce qui arrive en ce moment. Et je pense qu'il y a un biais de confirmation. Vu les personnes qui sont aujourd'hui en voie d'être discréditées, comme M. Toubiana, qu'a suivi M. Mukeli, il est forcé de se dire qu'il doit y avoir quelque chose en dessous qui cloche. Et donc, on se retrouve avec, il y a 30% de faux positifs. Non, les gens qui sont hospitalisés, vous voyez la courbe des hospitalisations. Vous n'imaginez pas qu'on hospitalise ces gens juste pour remplir les lits. On est presque arrivé au moment où des gens vont nous dire qu'il y a un complot des médecins. Trump l'a expliqué en disant que les médecins, c'est des gens intelligents. Ils ont bien compris que s'ils marquent Covid, ils vont faire de l'argent. Perron l'a dit en disant que un malade Covid en réanimation, c'est le jackpot. Il a aussi dit que les médecins généralistes notifier abusivement de faux positifs parce que ça leur permettait de gagner de l'argent. On est à un moment
On va s'en tenir quand même à ce que dit Mukeli. Moi, Laurent Mukeli, j'ai une question. À supposer que, effectivement, le gouvernement, le ministère de la Santé, dramatise la situation, grossisse les statistiques, quel est leur intérêt à le faire ?
Mais j'en sais rien. Je suis venu avec des questions précises, des données précises pour les discuter. Je ne suis là ni pour insulter qui que ce soit.
Non, non, mais attendez. Vous comprenez bien ma question, Laurent Mukeli. Laurent
Mukeli. Laurent Mukeli. Vous comprenez ce qu'il y a dans la tête du ministre de la Santé ou du Premier ministre ? Je n'en sais rien. Enfin.
Non, mais attendez. Moi, vous dites les statistiques sont grossies. Vous dites on compte Covid des gens qui ne sont pas forcément Covid ou qui ne sont pas seulement Covid. Mais alors. Quel est l'intérêt ? Moi, je vois pas bien. Quel serait l'intérêt du gouvernement, effectivement, à noircir le tableau de l'épidémie, quitte à paralyser l'économie avec deux confinements successifs ? Enfin, c'est ça que je ne comprends pas, si vous voulez, dans la démonstration.
Mais je ne cherche pas à démontrer une quelconque intention du gouvernement que je ne connais pas. Enfin, je vous répète, je ne suis pas dans la tête des gens, je ne fais pas de procès d'intention. Je constate simplement des choses. J'entends le discours du président de la République, j'entends un nombre de morts annoncé, il est faux. J'entends annoncer que si on ne reconfine pas, il y aura 400 000 morts. Je ne vois pas comment on peut scientifiquement tenir ça. Je suis sur des choses factuelles. Le reste ne m'intéresse pas.
Excusez-moi, mais j'insiste. Vous n'avez pas la curiosité de vous demander, mais pourquoi ils font ça, en fait ?
Je ne peux pas trouver. Je n'ai pas la réponse. J'ai des éléments comme tout le monde, mais je ne suis pas dans leur tête. Et mon enquête ne passe pas par des interviews des membres du gouvernement. Je n'ai pas le temps de faire ça.
Alors, vous avez des éléments comme tout le monde. Quel type d'éléments ?
Je peux supposer, comme tout le monde, que lorsque le premier confinement a eu lieu, d'abord, les gens se sont réveillés trop tard parce qu'ils étaient confiants dans des moyens qui, en fait, n'existaient plus. Ensuite, ils ont imité ce qui se faisait ailleurs, le modèle qui est venu de la Chine au début, ce qui aurait pu quand même questionner un peu, et puis surtout les Italiens, les Espagnols, juste avant nous. Donc, en fait, on cache une pénurie de moyens, on se réveille tard, et on imite ce que tout le monde a l'air de faire au même moment. Voilà, ça, c'est des choses que tout le monde peut voir, que les chronologies montrent à l'évidence. Mais je ne suis pas en capacité à aller plus loin en vous disant ce que les gens ont réellement dans la tête. J'ajoute simplement à ça qu'ils sont peut-être aussi pas suffisamment bien conseillés ou conseillés par des gens qui disent uniquement tous la même chose, alors que le débat contradictoire, c'est ça qui fait avancer. Et c'est pour ça qu'il est scandaleux de chercher, comme c'est le cas encore aujourd'hui, à décrédibiliser toute parole qui ne va pas dans le sens de vos idées. La science, c'est la contradiction, c'est l'échange d'arguments contradictoires. Voilà, le reste, c'est pas de la science, c'est autre chose.
Alors, pour parler une seconde des médias, vous avez publié ce texte dans la revue Regard, qui l'a publié, ce qui a fait réagir un certain nombre de ses lecteurs de manière assez violente. Vous avez eu un certain nombre de soucis avec d'autres médias avant de vous faire publier dans Regard. Je crois que vous nous avez parlé du Journal du Dimanche, de Marianne et de France Info.
Ouais. Alors, ce que vous avez dit n'est que partiellement vrai. Hein. D'abord, cette tribune est un grand succès. On en est à 600 signatures. Et comme les autres que j'ai pu faire, c'est principalement des professionnels de santé qui les signent. Voilà. Donc, vous voyez, la contradiction, elle existe partout. Hein. Faut pas croire que... Donc, c'est principalement ça. Ensuite, lorsque vous regardez les commentaires de l'article, ils sont à 90% extrêmement encourageants. Par contre, il y a eu clivage, y compris dans la rédaction de cette revue, comme un peu partout, et en fait, pour des raisons surtout politiques. Là, il y a des gens qui ne supportent pas, qui ne comprennent pas que la médecine n'est ni de droite ni de gauche, et que soigner, c'est ni de droite ni de gauche. Voilà, que c'est quand il faut, on soigne, et c'est tout. Et ces questions politiques, malheureusement, polluent le débat, à mon sens, depuis le mois de février dernier. Vraiment, le fait de vouloir classer les gens dans des boîtes à droite ou à gauche le pollue tout à fait. Et donc, reprocher à une tribune, par exemple, qu'il y ait telle personne qui soit plutôt de droite, voire d'extrême droite, à côté d'une personne qui est plutôt de gauche, enfin, moi, personnellement, je m'en fiche complètement. La santé, c'est un bien public. Voilà, elle n'est ni l'un ni l'autre. Ensuite, pour revenir à votre question, oui, j'ai rencontré des difficultés. J'ai rencontré tout simplement, pour la première fois de ma carrière, des phénomènes de censure.
Vous pouvez raconter ? Où avez-vous été censuré ?
Et j'ai été censuré à plusieurs reprises. La première fois dans le journal du dimanche.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire que moi, je contacte le journaliste qui est en charge de la rubrique opinion, tribune, débat. Il y a un nom différent selon les journaux. Voilà, et je propose, comme ça se fait tout le temps, je propose une tribune. Voilà, le journaliste me dit d'accord, et puis ça paraîtra demain à telle heure. Et puis j'envoie mon texte définitif, ma liste de signataires. Et puis extrêmement peu, au dernier moment, le journaliste me rappelle, tout gêné, en disant « Je suis désolé, mais ma rédaction en chef ne veut pas le passer. » Voilà, c'est ça qui se passe. Et ça s'est repassé à d'autres reprises. C'est la rédaction en chef qui bloque parce que ce n'est pas le message qu'on veut envoyer. Donc, qui bloque pour des raisons d'opinion. Hein, je suis confronté depuis le début de cette crise à un journalisme d'opinion, c'est-à-dire à des gens qui pensent qu'ils connaissent la vérité. Ça m'est arrivé sur d'autres façons. Les journalistes de l'Express aussi, ou de Libération, qui vous appellent en essayant de vous piéger, en quelque sorte. Enfin, ce qui
c'est-à-dire...
est incroyable.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, essayer de vous piéger ? Vous pouvez donner un exemple ?
Ils essaient de vous piéger, ils essaient de vous mettre en contradiction avec telle autre personne, ou ils cherchent la petite bête.
J'ai envie de vous dire que c'est le métier, ça.
Non, mais de
chercher les contradictions, de fouiller les points aveugles, c'est le métier de journaliste.
Non, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. La contradiction, évidemment, c'est évidemment normal. Ça va plus loin que ça. Ça vise, comme je le disais tout à l'heure et comme je le disais à M. Lehmann, ça vise aussi ce qui est, à mon sens, révélateur et vraiment pas bien. Ça vise à chercher à décrédibiliser les personnes. Je redis que voilà, il faut pas faire ça. Hein. C'est quand on n'a pas d'argument qu'on attaque les personnes. Il faut pas faire ça. Il faut rester dans le débat d'idées contradictoire. Donc j'avais aussi des journalistes qui venaient faire ça, qui l'ont fait aussi à M. Toussaint ou à M. Toubiana.
D'accord.
Voilà.
Alors sur le cas particulier, Paul, de Laurent Mucchelli, on a essayé d'enquêter auprès des médias pour essayer de savoir pourquoi, par exemple, cette tribune dans le journal du dimanche n'avait pas été publiée.
Alors c'est un peu compliqué. Le journal du dimanche a répondu à Libération, c'est le service Check News qui a fait un papier sur le sujet, en précisant qu'en effet, il y avait eu accord puis désaccord, presque publication puis non-publication, sans préciser pour autant pourquoi. On a essayé de les appeler, on n'a pas eu de réponse non plus, pour être très honnête. Quant à France Info, où la tribune de Laurent Mucchelli devait être publiée aussi, c'est finalement, alors France Info a expliqué que c'était un problème de personnel, que le week-end ils sont en sous-effectif, et que quand ils publient une tribune de ce genre, ils aiment avoir tout un système éditorial autour, donc avec des papiers d'accompagnement, des articles explicatifs, et que là ils n'avaient juste pas les moyens humains d'organiser ça pour une tribune pareille.
Ils n'avaient pas les moyens d'attendre le lundi.
Ils n'ont pas répondu sur cette question.
Alors, bon, c'est quand même d'autant plus étrange que globalement, on ne peut pas dire que le mouvement de contestation du confinement soit minoré ou en tout cas occulté dans les médias, comme tu l'as vu en enquêtant sur le sujet.
Non, clairement. Alors d'abord, il y a vous, Laurent Mucchelli, vous avez signé donc avec 300, maintenant ils sont plus de 600, vous nous dites, 600 autres personnes, dont des médecins, des avocats, des chercheurs, une tribune dans la revue de gauche Regard. Dans ce texte, Daniel le disait tout à l'heure, vous estimez que le confinement constitue un remède pire que le mal, et vous écrivez notamment, je cite encore, « Le bilan du confinement n'est associé à aucune réduction mesurable de la mortalité, tandis que son principal résultat est de mettre au chômage des centaines de milliers, voire des millions de personnes. » On a aussi des élus qui se rebellent aujourd'hui contre le confinement. Une soixantaine de maires ont décidé de braver l'interdiction d'ouverture des petits commerces en prenant des arrêtés dans leur ville. Leur objectif, c'est de permettre à ces commerçants de proximité de travailler. Ils ne contestent pas tous la nécessité même du confinement, mais plutôt ses modalités d'application. Et on précise tout de suite que tous ces arrêtés sont illégaux selon les préfectures concernées. Et puis enfin, on a eu des prises de parole très médiatiques contre ce confinement. On a eu Alexandre Jardin, l'écrivain, qui lui a appelé les Français à se rebeller complètement. Isabelle Saporta, la journaliste, qui a appelé à peu près à la même chose en disant qu'elle en avait un peu ras-le-bol d'être enfermée chez elle. Et pour finir, on a eu Yann Moix, qui lui a clairement déclaré qu'il ne respecterait pas le confinement et qui s'est dit prêt à payer toutes les amendes qu'on lui mettrait, ainsi qu'aux librairies de son quartier. On regarde un extrait tout de suite.
Et à un moment, il va falloir que les Français se rebellent. Parce que là, c'est pas possible si tu veux que ces gens s'immiscent à ce point-là dans nos vies.
Et tu fais ce que tu veux.
Non, justement, je ne fais pas ce que je veux. Je ne peux pas acheter ce que je veux. Je ne peux pas aller dans les magasins comme je veux.
Chez toi, tu fais ce que tu veux.
Non, je ne peux plus faire ce que je veux nulle part. Et d'ici à ce qu'on ait la brigade du flic qui viendra chez moi pour voir si je mets le masque, on est à deux doigts, si tu veux. Et moi, je trouve que là, on est vraiment au bout du bout.
La désobéissance civique est un devoir. Et je crois qu'en ce moment, moi, je m'apprête à désobéir civiquement au confinement. Je vais arrêter. Je vais arrêter de me confiner, je vais arrêter de remplir les fiches qu'il faut pour sortir. Je paierai toutes les amendes, je suis même d'accord pour payer les amendes des libraires qui voudraient ouvrir leur librairie.
La raison, c'est de faire confiance aux pouvoirs publics locaux, à nos élus locaux, qui savent parfaitement doser l'équilibre entre la nécessaire sécurité, la liberté et les intérêts économiques de leur territoire. Si nous sommes assez fous pour continuer à penser que l'État central sait régler ça, nous irons dans le mur. Je veux dire, bien sûr que j'appelle exactement à ce que vous craignez. Ce pays doit se redresser. Nous sommes des Français. Notre liberté n'est pas négociable.
Christian Lehmann, vous qui vous retrouvez dans la situation paradoxale que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de défendre cette mesure de confinement contre laquelle vous vous dressiez au printemps dernier, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces appels multipliés à l'insurrection et à la rébellion.
Alors je me retrouve à défendre une mesure, non pas que je combattais en mai, je l'ai combattue pendant tout l'été pour que ça n'arrive pas. On a écrit des tribunes dans lesquelles on disait « faisons tout pour éviter un deuxième confinement et une deuxième vague ». D'accord ? Mais le confinement de mars-avril, je ne le combats pas. Malheureusement, il était nécessaire, on en reparlera peut-être après, pour stopper et éviter la submersion des services hospitaliers et de la réanimation. Ce que je vois là, moi, Consigny, Jardin, c'est des individualistes toxiques qui s'intéressent uniquement à leur cul. Alexandre Jardin, dans son document, dans le truc qu'il a écrit, explique que, bon, de toute façon, hein, il ne faut pas, excusez-moi de le dire, mais c'est des vieux. Des vieux qui vont mourir. Donc, l'important, c'est qu'Alexandre Jardin puisse jouer à D'Artagnan, pendant que nous, on va mettre des gens dans des sacs en plastique. Donc, voilà ce que j'en pense.
Alors, excusez-moi, mais c'est des vieux. C'est un argument, Laurent Mucchielli, qui est donné par un certain nombre d'adversaires du confinement. Alors, pas sous cette forme-là. Hein, pas c'est des vieux qui vont mourir, mais... Le fait de dire, finalement, on confine un pays entier, toute tranche d'âge confondue, pour le bien d'une population à risque qui est quand même numériquement limitée. Est-ce que c'est un argument que vous reprenez aussi dans votre combat contre le confinement ?
Alors moi, j'ai jamais repris ce genre d'argument et je ne me situe pas du tout... dans le type d'argumentation de celle des personnalités dont vous venez de passer des extraits. Voilà. Et moi, j'ai toujours respecté les lois et les règles de la République. Ça ne veut pas dire que je les approuve, mais voilà. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième, c'est que c'est une fausse alternative qui est posée. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on laisse mourir les personnes très âgées ou si on se confine pour les protéger, c'est un faux débat, c'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres mesures, il y a d'autres façons de protéger les personnes très à risque sans pour autant que ce soit le confinement général. C'est quoi cette espèce de manichéisme où c'est tout ou rien au fond? Non, il y a d'autres solutions
qui sont
raisonnables,
qui sont
laissez-moi terminer mes phrases, dont on peut discuter. Donc protéger les personnes à risque, qui sont effectivement les gens très âgés et la plupart du temps qui ont en plus des comorbidités importantes, faut le savoir, c'est-à-dire la moyenne d'âge des gens qui décèdent est supérieure à la moyenne de l'espérance de vie en France des hommes et des femmes. Hein, puisque Santé publique France, qui ne le compte que pour les hôpitaux, vous dit c'est en gros 81 ans, la moyenne d'âge des personnes qui décèdent, mais ça ne compte pas les EHPAD. Or, dans les EHPAD, la moyenne d'âge, c'est 86 ans. Hein, et par ailleurs, l'espérance de vie aujourd'hui, des femmes, c'est un peu moins de 86, des hommes, un peu moins de 80. Donc les personnes qui décèdent sont des gens qui en moyenne sont, vous voyez, au-delà de l'espérance de vie ordinaire. Bon, et elles ont par ailleurs, je crois qu'au niveau des entrées pour les personnes décédées et les entrées en réa, je ne sais plus, c'est 90%, 65%, mais je ne sais plus lequel est lequel. Voilà. Bon, bref, c'est pour dire que ces personnes qui sont extrêmement à risque pour des raisons qu'on connaît bien, qu'on connaît très bien aujourd'hui, il y a certainement d'autres façons de les protéger que de confiner la totalité de la population, c'est-à-dire de mettre à l'arrêt la vie économique et sociale, de créer d'autres formes de pathologies physiques et mentales.
Alors il y a d'autres façons de les protéger. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les autres manières de les protéger que vous envisagez ?
Mais bon, j'envisage rien, je ne suis pas ministre de la Santé, mais c'est une question que vous tous, vous y compris, M. Steinmann, à laquelle vous pouvez réfléchir.
Non, mais Laurent Mucchini, vous nous dites qu'il y a d'autres manières de les protéger, lesquelles ?
Mais je ne sais pas précisément, je vous répète, je n'ai pas, si j'étais chargé de faire un plan machin, je vous garantis que je m'y mettrais et je ferais ça. Pour l'instant, mon travail, c'est du diagnostic, ce n'est pas de la préconisation. Voilà. Mais je répète que chacun d'entre nous, y compris vous, pouvez tout de suite imaginer qu'il y a peut-être des façons de protéger les vieillards très malades, autres que de confier la totalité de la population.
Moi, je ne les connais pas, mais moi, je n'ai pas, écrit un texte disant que le confinement était un remède pire que le mal. Encore une fois, vous avez un peu réfléchi aux alternatives, puisque vous nous dites qu'il y a des alternatives.
Mais je pense qu'on peut réfléchir à comment confiner, ce qui ne veut pas dire isoler et couper du monde, d'ailleurs, les personnes à risque, et pas confiner la totalité de la population. Je vous signale d'ailleurs que j'ai lu il y a quelques minutes un article du Monde disant que c'est ce à quoi le gouvernement réfléchissait depuis hier.
Donc, je comprends plus bien. Là, vous nous dites que vous souhaitez qu'on confine les personnes à risque. J'ai bien compris.
Je ne vous dis pas ce que je souhaite, je vous dis qu'à mon sens, il serait urgent d'y réfléchir. Ce que je vous dis est extrêmement clair. Vous voyez, chercher la petite bête, chercher à mettre les gens en difficulté.
Je vous dis un truc
super clair et vous me répétez trois fois la question. Alors, qu'est-ce que vous préconisez ? Je ne suis pas ministre de la Santé, je ne préconise rien. Par contre, je fais du diagnostic et je dis, il y a certainement des mesures intermédiaires entre laisser mourir les gens ou confiner la totalité de la population. C'est clair ce que je dis ? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que je viens de dire ?
Ce qui n'est pas clair, c'est effectivement, vous nous dites, proposition, il y a des alternatives, proposition A et proposition B, moi je ne les connais pas les alternatives. Donc comment on peut affirmer qu'il y a des alternatives quand par ailleurs
Je vous dis qu'on peut certainement en trouver si on veut bien y réfléchir en étant de bonne foi.
Christian Lehmann.
Je vous invite à le faire autant que moi.
Christian Lehmann.
Bon, juste deux choses. L'âge médian, parce qu'on a parlé d'âge, l'âge médian en réanimation en France pendant la première vague, c'était 63 ans, ce qui signifie, je le dis quand même, que la moitié des gens, donc 50% des gens qui sont arrivés en réanimation, avaient moins de 63 ans. Il y a des gens qui sont vulnérables, oui, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, ça fait des millions et des millions de personnes, et il y a aussi des gens qui, jeunes, sans comorbidité, se retrouvent avec ce qu'on appelle des Covid longs, c'est-à-dire qu'ils sont handicapés au niveau neurologique, qui ont l'impression d'avoir un brouillard dans la tête, qui sont fatigués, qui ont des séquelles pulmonaires et cardiaques, et ça peut tomber sur n'importe qui. Donc, quand bien même on trouverait un moyen de confiner les personnes âgées, et il faut savoir que les personnes entre 65 et 78 ans, 80 ans, ils se confinent déjà, ils sortent très peu. C'est des patients que je vois au cabinet ou que j'ai en téléconsultation et qui m'expliquent qu'ils n'ont quasiment pas déconfiné. Les gens qui sont contaminés, parfois, c'est des gens plus âgés parce qu'ils ont besoin d'aidants, d'aide à domicile, etc., qui, eux, peuvent se contaminer. Donc, on ne peut pas protéger juste cette population. On peut reprocher au gouvernement, et je lui reproche d'ailleurs, d'avoir voulu pendant l'été penser que l'évolution naturelle de l'épidémie irait dans le sens de pouvoir relancer les choses tranquillement. Il a écouté les rassuristes, on a renvoyé des vulnérables au travail, il y a tout un tas de gens qui étaient considérés comme vulnérables qui ont été renvoyés au boulot. Ça a créé le début de la vague de septembre. À la mi-septembre, le 11 septembre, vous vous souvenez que Delfrécy du Conseil scientifique a dit « le gouvernement va devoir prendre des décisions » et qu'en fait, il y a eu une option d'Emmanuel Macron, de les mettre de côté, de dire c'est moi qui décide et de laisser fonctionner l'économie. Monsieur Mucchielli dit que la tribune n'attribue au gouvernement aucune... Il dit je ne sais pas ce qu'ils veulent, moi je ne fais que du diagnostic. Mais la tribune commence en disant ce déconfinement, le gouvernement l'avait préparé depuis longtemps, comme s'il y avait un plan secret. Non, le gouvernement a pensé qu'il pourrait y avoir... Le gouvernement a pensé qu'il pourrait y avoir un nouveau confinement, mais a tout fait pour faire l'inverse. Je dirais presque relancer l'économie à tout prix. Le protocole sanitaire à l'école, il est déplorable. On a parlé avec les professeurs, les instituteurs, il est déplorable. Mais il fallait que l'école soit ouverte pour qu'on puisse renvoyer les parents au boulot. Donc, supposer que le gouvernement voulait absolument enfermer à nouveau sa population ne tient pas du tout avec ce que le gouvernement a fait, de manière parfois très désordonnée, pendant les mois d'été.
Alors, sur l'outil lui-même, je voudrais revenir à un autre argument que donnait tout à l'heure Laurent Mucchielli, qui était de dire qu'il faut aussi considérer les dégâts du confinement, notamment les dégâts économiques. C'est pas la peine d'y insister, et les dégâts, par exemple, psychologiques. C'est-à-dire qu'il faut faire deux plateaux de la balance. Voilà. Mais je résume ce que disait Mucchielli, il faut faire deux plateaux de la balance. D'une part, effectivement, la population à risque, qui a souvent dépassé l'espérance de vie, bon, on va pas chipoter sur les statistiques, et d'autre part, tous les dégâts du confinement, notamment les dégâts psychologiques. Est-ce que, Christian Lehmann, vous refusez totalement l'idée de cette balance coût-bénéfice, j'ai envie de dire?
Non, je la refuse pas, parce qu'il y a des dégâts psychologiques. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et c'est la raison, je vais le dire encore une fois, pendant que Toussaint et Toubiana diraient qu'il ne se passait rien, les gens comme moi, les sentinelles, alertaient, si on ne fait pas attention, vous allez vous retrouver à nouveau dans le mur.
Mais alors aujourd'hui, on a bien compris que vous avez prévenu. Okay, vous avez prévenu, vous êtes laxonné, c'est clair. Mais alors aujourd'hui, quand on fait la balance coût-bénéfice aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui?
Attends, mais elle est psychologique et elle est économique. Mais ce qu'on voit, c'est que le confinement... Il y avait des articles dans Le Monde il y a quelques jours qui montraient que ce sont les plus précaires, justement, qui, en allant au travail, dans le 93, etc., se sont contaminés. Et que le confinement protège d'abord les plus précaires. Les troubles psychologiques, ils sont là. Quand je parle avec les gens de Aide, d'Act Up, avec la Fédération Addiction, avec Fred Bladou, ils disent ce qui est dingue, c'est que le gouvernement ne prend pas en compte comment parler à la population de manière un peu humaniste et rassurante, comment ouvrir des lignes téléphoniques ou autres pour que ces associations qui ont l'habitude de parler aux personnes qui sont fragilisées puissent avoir un soutien psychologique. C'est ça qui est complexe. Ce gouvernement n'a pas laissé la place aux citoyens et aux citoyens qui étaient, informés ou qui travaillaient déjà, je les cite, Aide, Act Up, la Fédération Addiction, etc., sur comment on prend en charge la population autrement qu'en lui permettant d'aller acheter à bouffer.
Laurent Mucchielli, sur le confinement protège d'abord les plus précaires. Vous êtes d'accord?
Je vais vous répondre, mais je commence par rappeler un chiffre, parce que c'est un petit peu mon métier quand même, de faire du quantitatif, et je n'ai pas l'habitude de dire des sottises. J'ai sous les yeux, à mon écran, le dernier bulletin de Santé publique France, que vous citiez d'ailleurs, que vous citiez tout à l'heure. Okay, nous sommes à la page 25, il est écrit en toutes lettres, l'âge médian des décès est de 84 ans, 91,2% avaient plus de 65 ans. Voilà. Donc, c'est pas 60 ou 63 ou je ne sais quoi, ou ça l'était peut-être un jour, mais moi, je vous dis aujourd'hui, et c'est la page 25 du dernier rapport de Santé publique.
Alors, on va purger cette affaire. Âge médian des décès, quelle période?
Âge, mais c'est la totalité des décès du Covid à ce jour. L'âge médian est de 84 ans, l'âge moyen est un peu plus de 81, et 91,2% avaient 65 ans et plus. Page 25 du dernier bulletin de Santé publique France.
Christian Lehmann,
que
Christian
ça Lehmann. C'est la mortalité hospitalière, hein, et que si on met là-dedans les EHPAD, dont la moyenne d'âge des résidents est de 86 ans, Ça veut dire qu'on est encore au-dessus de ces chiffres-là.
Christian Lehmann,
des personnes âgées, je parle de la mortalité.
Christian Lehmann, âge médian des décès. Christian Lehmann, âge médian des décès, 84 ans.
Je n'ai pas l'âge médian des décès, mais l'âge médian, je le rappelle, ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui sont en dessous. Ce que j'avais, c'est l'âge médian des réanimations. Et la réanimation, comme disait un collègue, c'est comme passer sous un camion. C'est qu'il y a, dans la tribune, il est dit que si on avait plus de lits de réanimation, que le problème, c'est celui des lits de réanimation, et que c'est ça qui fait qu'on est obligé de confiner. Oui, certainement, mais enfin, c'est comme si vous disiez, comme on a beaucoup de casernes de pompiers, on peut foutre le feu partout. Non, en fait, une réanimation, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement lourd, à la fois pour les médecins et le personnel soignant, mais aussi pour la personne. C'est une épreuve terrible dont les gens sortent parfois avec des mois de difficultés. Et quand on dit que l'âge médian pour rentrer en réanimation pour la première vague, c'est 63 ans, ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui ont vécu une, deux, trois semaines, parfois intubés, parfois sur le ventre, dans le coma, avec leur famille qui ne pouvait pas les voir et qui ne savait pas s'ils allaient vivre ou mourir. Je parle de ça, en fait.
Laurent Mucchielli, le confinement protège les plus précaires ?
Quand on regarde les statistiques de l'INSEE, là encore, en Ile-de-France, le département où il y a eu le plus de dégâts liés au Covid, c'est la Seine-Saint-Denis, qui est aussi le département le plus pauvre. Fort discutable, cette hypothèse-là. Hein, voilà. Sur votre autre question, je n'ai pas eu le temps d'y répondre tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord hein, avec l'idée que par ailleurs, il n'y a pas que la mortalité hein, et qu'il y a des formes, évidemment, ni même l'hospitalisation, il y a des formes moins graves de la maladie. Ce qui pourrait amener un autre vrai débat, hein, pas les petites machins pour people ou pour affoler, je ne sais quoi, mais un autre vrai débat qui manque cruellement, à mon sens, en France et que nous essayons de porter, encore une fois, avec mon groupe, qui est que pourquoi est-ce que l'attention est uniquement focalisée sur la médecine hospitalière. Et une des choses que nous disons, c'est que depuis le tout début de cette crise sanitaire, le gouvernement a squeezé la médecine ambulatoire et qu'on ne comprend pas pourquoi et que ça a des effets aussi, à notre sens, qui participent à cette charge qui est portée sur l'hôpital avec l'hospitalisation, la réanimation, toute la chaîne, hein, qui est le fait qu'on ne soigne pas suffisamment, on ne donne pas d'ailleurs de guidelines, hein, de directives globales bien claires pour les médecins, et c'est même pire que ça. Ceux qui ont le malheur de vouloir prescrire tout ou partie du protocole de l'IHU, ils sont poursuivis par l'ordre, etc. Donc il y a un vrai souci en France.
Alors attendez, excusez-moi, pouce, on laisse l'IHU en dehors de ce débat, on a bien assez de sujets sans introduire Raoul dans le débat. Lehmann sur l'ambulatoire.
C'est pas introduire Raoul que de parler de la façon dont les médecins oui. soignent.
On va faire un gage, Raoul. Si quelqu'un dit Raoul, il met un euro dans une tirelire. Lehmann sur l'ambulatoire.
Sur l'ambulatoire, c'est sûr que le gouvernement et le ministère de la Santé s'y sont pas vraiment penchés. Mais la réalité, c'est que de manière très étrange, dans cette épidémie, pour la première fois, ça n'a pas été le cas à d'autres moments, comme machin et nain, etc. La sécurité sociale nous a laissé travailler, nous a permis de faire de la téléconsultation, nous a permis de suivre les patients, a mis en place Contact Covid. Je ne dis pas que c'était extraordinaire, hein. Je disais que même si nous n'étions pas sur les plateaux, on n'a pas chômé depuis le début. Moi, je n'ai jamais autant travaillé que cette année. Parce que si vous aviez envie de faire quelque chose, si vous aviez envie de contacter vos patients âgés pour pouvoir les garder à domicile correctement, si vous aviez envie de monter, comme je l'ai fait, un centre Covid, un Covidrome, etc., les choses se mettaient en place. À la différence de d'habitude où vous avez l'ARS, etc., qui vous fait faire des réunions pendant des plombes, pendant des années, et qui ne vous n'avance rien. Là, en gros, nous, on mettait en place avec les élus locaux ce qu'il y avait à faire, et l'ARS arrivait derrière pour signer et faire en sorte que ça puisse se faire. Donc, cette idée que la médecine générale a été totalement mise de côté est fausse. Mes collègues qui étaient dans le Grand Est se sont pris la vague dans la gueule, ils étaient là en face. Qu'ensuite, il y a un regard qui soit porté sur la réanimation et l'hospitalisation, c'est sûr. Et je trouve que c'est normal, parce que c'est nos collègues des réa, c'est nos collègues des urgences, nos collègues du SAMU, qui en prennent plein la gueule, j'ai envie de dire plus que nous. Mais nous, on a eu plus que notre travail à faire, et en grande partie, le ministère de la Santé a joué le jeu. Et je dis ça alors que mes griefs que j'ai dit à plusieurs reprises et que j'avais dit la dernière fois sur les mensonges, sur les masques au début, sur le fait que le gouvernement n'a jamais été clair sur des choses simples comme l'aérosolisation.
Christian Lehmann, on ne va pas refaire l'émission que nous avions faite ensemble au printemps. Là, on est en novembre. Je voudrais vous montrer une séquence sur le confinement. On a vu tout à l'heure dans le montage que nous passait Paul, on a vu la chroniqueuse Isabelle Saporta, aux grandes gueules de RMC. En fait, elle répondait à une intervention dans la même émission de l'ancien directeur de la santé, William Dabb, que je souhaiterais qu'on écoute.
Je crois que c'est un vrai objectif social de laisser nos enfants à l'école. En revanche, il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque.
Le masque à la maison. Absolument. Pour les collégiens et les lycéens.
Absolument. Il faut qu'ils gardent le masque et qu'ils soient très rigoureux sur l'hygiène des mains, surtout dans des petits logements où la distance, on va avoir du mal à la respecter.
Et quand on mange ? Le dîner familial.
On n'est pas tous obligés de manger ensemble.
Alors, on comprend bien pourquoi il dit ça. Il dit ça puisque effectivement, les établissements scolaires sont restés ouverts, hein, et que donc les collégiens, les écoliers peuvent potentiellement contaminer leurs parents. Alors, ce qui nous met face à la question quand même de l'incohérence totale de ce dispositif de confinement. Est-ce qu'on peut défendre, Christian Lehmann, ce dispositif avec les mille incohérences comme celle-ci? Est-ce que ces incohérences ne le condamnent pas?
Alors, le problème, c'est que je pense que le confinement est le seul moyen d'éviter une vague de morts. Ok, c'est pas, hélas, à moi de faire le protocole sanitaire à l'école. Il est incohérent totalement. Blanquer est dans un déni absolu depuis le début avec ces trucs du style « nous sommes prêts à tout ». Il est clair qu'au lieu de penser que le gouvernement d'emblée attendait un deuxième confinement, il a essayé de passer en force. Parce que si les gens vont à l'école, si les enfants vont à l'école, on peut remettre les gens au travail. Okay. Il y avait des choses à faire. Le masque à l'école des 6 ans, l'aération des pièces, le distanciel, si c'était possible, ça n'a pas été fait.
Le masque des 6 ans, ça vient d'être fait. Hein.
Oui, ça vient d'être fait après 2 mois de retard. Or, tu sais que perdre 15 jours dans une épidémie de cette nature, c'est catastrophique. Si le 11 septembre, le primat de l'économie n'avait pas été mis en avant la santé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, entendre William Dabb dire ce truc qui est aberrant, même sur le plan humain, il faut que vos gosses aillent à l'école, même dans des conditions dégradées, pour que vous, socialement, vous puissiez aller travailler. Mais quand vous serez rentré de votre travail, parce qu'on ne vous laisse pas aller en télétravail, quand vous serez rentré de votre boulot, ben, vous n'embrasserez pas vos enfants, vous ne les prendrez pas entre vos bras, ils garderont un masque et ils mangeront loin de vous. On est arrivé là à un niveau de délire qui est assez difficile à soutenir. Je suis d'accord avec ça.
Christian Lehmann, vous pensez que le temps qu'à faire, le gouvernement aurait dû reconfiner en mode premier confinement, c'est-à-dire un confinement beaucoup plus strict?
Je pense... Alors, j'ai envie de dire que le fait d'avoir essayé de passer en force et de retourner à la normale en espérant que l'évolution de l'épidémie le permettrait, parce qu'il y avait plein de gens qui se sont totalement plantés, qui n'arrêtaient pas de le dire, a fait que les mesures de protection qu'on demandait ne sont passées qu'en partie. Il a fallu batailler. Je sais que tu n'aimes pas que je rappelle le passé, mais il a fallu batailler pour le masque en lieu clos. Quand on a demandé le masque en lieu clos, on a eu le masque en lieu clos public, pas au travail pour pas emmerder les patrons. Et on est allé emmerder les gens qui se baladaient sur la plage en disant « il faut un masque quand vous êtes dehors ». Mais c'est quoi le délire en forêt ou en truc? Pourquoi emmerder les gens? Je ne dis pas que ça a été fait correctement. Au contraire, À la fin août, on a essayé absolument de demander le masque à partir de 6 ans. Les professeurs étaient très inquiets de se retrouver avec des gosses non masqués. Ils disaient, on n'a pas les capacités à la cantine de les faire manger. Voilà un truc incroyable. À la cantine, les gosses sont face à face et ils mangent face à face, mais ils rentreraient à la maison, ils dormiraient et ils mangeraient dans leur chambre, tout seuls devant un écran, pendant que leurs parents sont dans une autre pièce.
Non mais, alors, non mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il aurait été plus logique de refaire un confinement de première manière.
Si on avait eu un protocole sanitaire correct, si on n'avait pas renvoyé les vulnérables au travail dans la nuit du 31 août au 1er septembre, si on avait continué à favoriser le télétravail, on n'en serait pas là. Et si la courbe avait recommencé à monter, là on aurait pu se poser la question de savoir quelles mesures faire plus. Au stade où on en est, les demi-mesures de confinement light du style « vous allez bosser, vous prenez les transports en commun, mais vos enfants gardent un masque à la maison », c'est n'importe quoi. Donc malheureusement, parce qu'il y a plein de gens qui ont nié qu'il y aurait l'épidémie, il y a plein de gens qui ont dit « mais c'est une courbe en cloche, ça ne se voit jamais, c'est comme ça passe par les mains et ce n'est pas respiratoire », tous ces stupidités ont amené à la situation actuelle. Et donc moi, ce que je vois, c'est mes collègues en réanimation et urgentistes qui sont en train de pousser les murs, qui sont épuisés, qui savent que, comme on dit, on va aller dans le mur, il va y avoir des morts, les réanimations vont être submergées, pas parce qu'on s'amuse pour gagner un jackpot à mettre des patients en réanimation parce qu'ils n'en auraient pas besoin, mais parce que c'est comme le Titanic, à partir du moment où la Vigie dit « attention, il y a un iceberg », il y a le temps pour que le capitaine du navire bouge. Et au moment où il dit de faire bouger le truc, il y a encore des centaines de mètres avant que le bateau puisse commencer à tourner. Et pour nous, il y a au minimum 15 jours. Alors, et donc, ces 15 jours signifient des morts qu'on aurait pu éviter et qui deviennent inévitables.
À propos de capitaine, je voudrais qu'on termine par un autre aspect de la question qui est le mode de décision. Comment les mesures gouvernementales, de quelle manière les mesures gouvernementales sont élaborées, avec quelles garanties démocratiques, avec quelles consultations. Il me semble qu'il y a une séquence politique qui résume bien cette question. C'est un face-à-face assez musclé cette semaine entre le ministre de la Santé, Olivier Véran, et les députés de l'opposition, essentiellement LR, à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on le voie.
Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonne. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans. De 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
Alors en fait, il y a deux façons de voir cette image. On peut voir un ministre qui pète les plombs et qui intime à des parlementaires de l'ordre de sortir de l'hémicycle, ce qui est quand même relativement surprenant. Ou on peut voir un médecin, puisque Olivier Véran est médecin, révolté par l'inconscience d'un certain nombre de députés qui viennent, puisque c'est pour ça qu'ils s'énervent en fait, qui viennent de retoquer la demande gouvernementale de prolonger l'état d'urgence sanitaire. Sur cette séquence, Laurent Mucchetti.
Je n'ai pas grand-chose à dire. Je regrette qu'on n'ait pas le temps de vraiment discuter des questions et qu'on enchaîne les sujets. Moi, j'avais deux choses à dire tout à l'heure. On commençait à peine à avoir un débat sur la médecine ambulatoire et il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai évidemment jamais dit que les médecins n'avaient pas travaillé. J'ai posé la question de qu'est-ce qu'ils avaient travaillé, qu'est-ce qu'ils avaient prescrit, etc. Il y aurait un bon débat à faire. Et puis, il y en a un bon aussi à avoir sur la question de l'hôpital public, de ses financements, du nombre de lits. Enfin, les choses qui m'intéressent le plus, elles sont là. Après, comme vous le dites, le pétage de plomb de M. Véran.
Enfin, je me permets juste de poser cette question sur laquelle vous n'avez pas grand-chose à dire, parce que dans votre texte à vous, je le prends et je le lis, « Quant à la démocratie, elle est mise sous cloche par l'état d'urgence permanent et de confinement. Qu'est-ce qu'une démocratie sans liberté d'aller venir, de se réunir, de manifester? Qu'est-ce qu'une démocratie où il n'y a quasiment plus personne dans les hémicycles des assemblées parlementaires ?» Donc j'imaginais que le sujet pouvait éventuellement vous intéresser un
peu. Ça, oui, la démocratie.
Oui, mais c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir.
Oui, non, mais c'est pas la question que vous m'avez posée. Si vous me posez celle-là, alors oui, bien sûr. J'ajoute que en plus des problèmes économiques, sociaux, physiologiques, psychiques et psychiatriques que pose le confinement, on est arrivé aujourd'hui à un stade, bien sûr, où il y a aussi un problème de bon fonctionnement de la démocratie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Nous sommes en état d'urgence qui se succède, qui ne s'arrête jamais. Nous avons effectivement des réductions majeures de liberté individuelle et publique. Nous avons par ailleurs un Parlement qui, mis en permanence en état d'urgence, ne fait pas correctement son travail de Parlement. Nous avons une justice qui, lorsqu'elle est confinée, ne peut plus audiencer, donc est mise à l'arrêt. Et par ailleurs, moi, j'estime que nous avons également une presse qui ne fait pas son travail d'investigation et de recherche contradictoire d'informations par rapport à la communication gouvernementale. Donc, le résultat de tout ça, c'est finalement qu'il n'y a plus qu'un seul pouvoir, le pouvoir exécutif. Donc, bien sûr, ça pose question, et je suis loin d'être le seul à me la poser là aussi. Non seulement nous avons écrit une tribune entière avec des juristes là-dessus, mais il y en a une qui est parue également dans Le Point, je crois, il y a 24 heures, où ils sont plus de 200. Ça commence à crever les yeux, en fait. Hein.
Christian Lehmann, sur le coût démocratique des états d'urgence qui se succèdent et du confinement.
Alors, je peux revenir à la question que tu avais posée sur Véran. C'est extrêmement maladroit de sa part de dire aux gens de sortir, puisque les ministres ils sont dans l'hémicycle. Sur le fond, ce qu'on voit, c'est l'instrumentalisation politique du débat. Les LR sont en mode nous, on n'est pour rien dans ce qui s'est passé. On n'a surtout pas demandé le maintien du premier tour de l'élection municipale, qui a été une catastrophe. On est responsable de rien et vous êtes très, très, très mauvais. Quand je le dis tout à l'heure, quand Jean-Pierre Door vient balancer des fake news sur le fait qu'il aurait eu en main des certificats de décès falsifiés sur lesquels il y a marqué Covid.
Alors Jean-Pierre Door, est un député de quelle appartenance ? Moi, je ne connais pas.
Il est UDI. Enfin, c'est un vieux de la vieille de UDI ou ce D'accord. genre de choses-là, LR. Hmm. Voilà. Et donc, on en est à ce stade-là. On est à un stade qui n'est pas très, très loin du Trumpisme, en fait. Donc Véran là a pété les plombs parce qu'il doit sentir sur ses épaules un poids énorme. C'est pas malin de se retrouver à l'Assemblée nationale et de dire à des députés qui sont censés représenter les Français de sortir. Ça, je ne vais pas te dire le contraire. Quant aux médias qui ne donneraient qu'un son de cloche, ben, je sais pas, il y a énormément de médias. Il y a énormément de médias qui ont donné constamment la parole aux rassuristes, qui ont donné la parole aux gens qui voulaient sortir de la médecine scientifique, si j'ose dire, pour faire de la médecine empirique. Je ne mettrai pas un euro dans ta petite boîte, mais tu vois de qui je parle. Non, mais je suis économe, de mon mépris aussi. Donc, la presse fait son boulot. C'est même assez intéressant de voir la grande diversité qu'il y a dans les points de vue. Alors bon, on a des gens qui sont complètement barrés à CNews, à Sud Radio, qui sont voilà au Café du Commerce ou aux Grandes Gueules. Mais sinon, dans la presse en général, tu entends tout, depuis des gens qui te disent qu'il n'y allait pas y avoir de seconde vague, jusqu'à des gens qui te disent « il faut qu'on retrouve notre liberté de pouvoir aller boire un mojito au Flore parce que les vieux, après tout, c'est des vieux ». Non, on entend tout, hein. On n'a pas… Je pense que le gouvernement se fait étriller dans la presse plus souvent qu'à son tour, et par exemple souvent par moi. Donc le but pour moi, c'est pas de soutenir le gouvernement, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait des morts, parce qu'au stade où nous en sommes, après les positions qu'ont pris les uns ou les autres, on est dans une deuxième vague et on va avoir nos hôpitaux submergés.
Laurent Mucchelli, quelque chose à ajouter ?
Oui, bah écoutez, l'expression deuxième vague n'est pour moi pas certaine. On est sur la reprise de la mortalité saisonnière, ça c'est sûr. Les gens sont là pour le Covid, mais peut-être pas pour autre chose, comme ça a été le cas l'hiver dernier. Hein. Il n'y a pas eu, bizarrement cette année, il n'y a pas eu de grippe et les gens étaient Covid à la place. Et par ailleurs, il y a, comme chaque année, je dis bien comme chaque année, une saturation des urgences, de la réanimation, parce que l'hôpital public n'a depuis des années et des années pas suffisamment de moyens pour fonctionner et qu'on ne cesse de réduire ses capacités, notamment en termes d'accueil et de lits. Donc il y aura, comme chaque année, j'invite tout le monde à éviter l'Alzheimer général qui nous guette malheureusement, pour se souvenir qu'avant même que démarre l'épidémie de Covid, ça faisait un an et demi qu'il y avait plus de la moitié des services d'urgence qui étaient en grève en France et qui criaient ça partout, qui le répétaient partout. Et il faut absolument, absolument s'en souvenir. Il ne peut pas y avoir zéro malade, il ne peut pas y avoir zéro mort, ça n'existe pas. Il faut qu'on ait un service public de la santé, notamment hospitalier, qui soit au niveau et qu'on arrête de l'abîmer comme on le fait depuis
juste sur le tome chaque année, vous avez entendu ce que vous disait le médecin de terrain, Christian Lehmann, au début de l'émission. Je veux dire, lui n'avait jamais vu de devoir ouvrir des morgues en urgence. Dans des hangars ou je ne sais où, je veux dire...
Mais écoutez, c'est un point de vue et je le respecte.
C'est un témoignage.
Si vous voulez, c'est pas un témoignage et je le respecte. Mais moi, je vous redis qu'il suffit de faire quelques clics sur Internet pour s'apercevoir que, y compris le fait de devoir transporter des malades d'un hôpital vers un autre parce qu'il n'y en a pas et d'affréter pour ça des trains ou des avions, ça n'est pas la première fois dans notre histoire que nous l'avons vu. Il faut avoir un peu de mémoire. Et sortir de l'hyper-présent ou de croire que tout est nouveau en 2020.
Quand est-ce qu'on avait vu des transferts massifs par dizaines de patients d'une région à l'autre dans l'histoire récente de la France ?
Je ne peux pas vous donner tout de suite là une date. Je vous dis simplement que c'est déjà arrivé.
D'accord.
Et je répète que chaque année, nous avons ce phénomène de saturation des hôpitaux, chaque année, et grosso modo, d'ailleurs, d'accord. À la même époque.
Non, mais d'accord, mais vous dites
c'est
déjà...
C'est pour ça que les gens
sont
en grève depuis... enfin, vous voyez...
vous dites que c'est déjà arrivé. Moi, personnellement, je n'en ai pas le souvenir, mais j'ai pu rater quelque chose. Donc, je voulais savoir si vous aviez des souvenirs plus précis.
Je vous dis ce que les témoignages également que moi, j'entends. Hein, et par ailleurs, ce que je vois, tout simplement, en consultant les rubriques archives des sites Internet de vos collègues.
Mais alors, vous avez vu quoi, justement ?
Monsieur, j'ai pas préparé la liste. Si j'avais su vous me posiez la question, vous auriez sorti la liste.
Vous me parlez de ce que vous voyez dans les sites archives, excusez-moi. Mais vous voyez quoi ?
Mais vous allez sur archives et vous cherchez ce pourquoi les urgentistes ou les réanimateurs font la grève depuis deux ans. Vous cherchez des reportages sur les saturations en automne et en hiver des années précédentes. Vous allez les trouver, enfin. Vous croyez que je viens vous raconter des bobards ? C'est quoi cette histoire ?
Je pose des questions. J'ai la faiblesse de faire ce métier. Christian Lehmann.
Juste une chose. Bon, ça fait 37 ans que je fais ce métier, donc je ne savais pas que tu allais poser cette question. Mais le problème, c'est que quand tu fais un boulot pendant 37 ans, tu as les réponses. Et la réponse, c'est que deux années de suite, pendant l'hiver, pendant l'épidémie de bronchiolite qui touche les petits-enfants, comme il n'y a pas suffisamment de lits de réanimation pédiatrique, souvent, il arrivait que, par exemple, des enfants en région parisienne, parce qu'elle était saturée, des enfants étaient envoyés dans des réanimations vers l'ouest, peut-être Évreux, Rouen, ce genre de choses-là. C'est choquant, c'est parce qu'effectivement, on est au carré et qu'il n'y a pas assez de lits. En aucune façon et à aucun moment, ça ne s'est fait de cette manière, avec des trains entiers, avec des hélicoptères, avec des avions... avec des hôpitaux qui se transformaient complètement pour ne faire que de la réanimation. Ça n'est jamais arrivé. Je suis un de ceux qui, depuis des années, se battent contre les franchises sur les soins, contre la destruction de l'hôpital, qui suit tout ça. Je suis allé m'engueuler avec des sénateurs et des parlementaires sur LCP et tout, à qui je disais « Mais vous ne vous rendez pas compte de l'état des urgences chaque été ?» Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs que l'hiver, c'est l'été qui est un des moments les pires pour les services d'urgence. Donc je sais tout ça, et sachant tout ça, et ayant combattu ces politiques de destruction du bien public, je dis ce que nous voyons. Je ne l'ai jamais vu en 37 ans. Ce n'est jamais arrivé.
Parfait, merci à tous les deux. Merci à nos abonnés d'avoir suivi cette émission uniquement masculine. D'ailleurs, je tiens à m'en excuser auprès de nos abonnés, mais on avait une certaine avance en matière de parité de plateau depuis le début de l'année, et ça se reproduira le moins souvent possible. À la semaine prochaine.